France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano et Christelle Anger, réalisé par Sam Bakiast. Et à la technique ce matin, c'est François Saint-Jour. À l'occasion du nouvel an lunaire qui commence aujourd'hui, nous consacrons toute cette semaine de Culture Monde aux diasporas chinoises dans le monde, lundi en Asie, hier en Europe, aujourd'hui sur le continent africain où elles tentent la roue de la fortune.
Tous mes vœux de bonheur à la communauté chinoise en Côte d'Ivoire qui contribue au développement et à la prospérité de notre pays. Je voudrais enfin me réjouir de la coopération sino-ivoirienne. Et à cette occasion-là, nous pourrons faire le point de notre coopération et des perspectives.
Nous, les commerçants chinois, nous sommes très nombreux ici au marché centenaire. Nous nous entendons bien avec les Sénégalais, notre commerce se porte bien. Pendant les périodes de fête, les Sénégalais viennent nombreux pour s'habiller. Nous nous en sortons de mieux en mieux.
C'est la tranchée pour enfouir la fibre optique. De la frontière gabonaise jusqu'à Yaoundé. Regardez-le. Lui, c'est notre chef d'équipe technique. Regardez son bronzage. C'est ça l'ouvrier chinois. Il travaille sur le terrain et il est là pour surveiller les travaux.
Au départ, comme pour toutes les diasporas chinoises dont nous parlons cette semaine, au départ c'était des coulisses, ces ouvriers trompés ou enlevés pour être vendus comme main-d'œuvre dans les colonies ou les pays occidentaux au XIXe siècle. Ce bétail humain importé dans un seul but, le travail, écrit Steinbeck au début d'À l'Est d'Éden. Lorsqu'il était fait, le travail, les survivants étaient réexpédiés en Chine. Seuls les mâles étaient importés, pas les femmes. Le pays ne voulait pas qu'elles fissent souche. Un homme, une femme et un enfant s'accrochent à la terre, construisent un foyer dont il est difficile de les arracher, tandis qu'un troupeau d'hommes, inquiets, excités, tourmentés par le manque de femmes, ira n'importe où et plus particulièrement rentrera chez lui. Dans les pays d'Afrique, austral essentiellement, le scénario était le même et là encore, d'autres vagues migratoires par la suite ont contribué petit à petit à former des communautés chinoises, que ce soit en Afrique du Sud, mais aussi en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Des Chinois venus de leur propre initiative cette fois et tenant aujourd'hui de très nombreux commerces dans les capitales. S'ils sont à la fois critiqués pour la concurrence qu'ils représentent, ils créent aussi des emplois et contribuent à construire des relations sino-africaines par le bas d'une certaine façon. Ces migrants investisseurs, comme vous les appelez, Xavier Aurégan, bonjour.
Bonjour Julie.
Et bienvenue à vous, vous êtes maître de conférence à l'Université catholique de Lille. Vous, c'est en Côte d'Ivoire que vous avez effectué la plupart de vos terrains de recherche. Merci d'être avec nous. Nous sommes aussi en duplex depuis Lausanne, en Suisse, grâce à nos confrères de la RTS, avec Antoine Kernen. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Vous êtes sinologue, spécialiste des relations Chine-Afrique et professeur à la faculté de sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. Vous travaillez en particulier sur le Cameroun depuis plusieurs années, mais vous connaissez bien également le Sénégal et le Mali. Alors d'abord, puisque c'est aujourd'hui le premier jour du nouvel an lunaire, est-ce que vous savez, Xavier Aurégan, comment s'est passé hier le réveillon à Abidjan, par exemple? En général, comment ça se passe?
Alors, en général, l'ambassadeur chinois invite une pluralité de personnalités ivoiriennes. Et effectivement, c'est l'occasion de célébrer un petit peu les relations bilatérales Chine-Côte d'Ivoire qui sont nées en 83, la même année d'ailleurs, que le changement de capitale en Côte d'Ivoire, passant d'Abidjan à Yamoussoukro. Mm-hmm. Donc, effectivement, c'est l'occasion de célébrer, de réunir également une partie de la communauté chinoise qui habite, qui est implantée à Abidjan ou en Côte d'Ivoire plus généralement.
Et de nouer... Ils sont tous invités à l'ambassade.
Alors non, pas tous, évidemment, heureusement. Sinon, on aurait des milliers, effectivement, de personnes à l'ambassade. Mais c'est l'occasion de nouer contact, de célébrer et puis de se réunir, puisqu'ils n'ont pas toujours l'occasion, finalement, de se réunir lors de festivités.
Et s'ils sont invités, ces Chinois et Chinoises qui vivent aujourd'hui, par exemple, à Abidjan, est-ce que, ou à Yamoussoukro, est-ce qu'ils y vont ou est-ce que certains préfèrent se tenir un peu à distance de l'ambassade?
Tout dépend du statut du migrant chinois. Il y a des investisseurs, des industriels, de grands commerçants. Et puis, il y a effectivement une partie de la population migrante qui n'a pas vocation, qui ne veut pas, d'ailleurs, de lien, de relation avec le parti politique chinois, le parti communiste. Donc, fatalement, ils ne vont pas être invités, ils ne vont pas y aller non plus.
Et vous disiez tout à l'heure, ils ne peuvent pas tous y aller de toute façon, ils ne peuvent pas être tous invités, ils sont nombreux. De combien de personnes on parle à peu près? Combien de membres compte la diaspora chinoise en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on a au moins une idée?
Alors, environ tous les ans, la Chine publie par le ministère du Commerce des fiches pays, des documents pays dans lesquels on trouve parfois le nombre de migrants chinois dans tel pays africain. En Côte d'Ivoire, il n'est pas fait mention finalement des milliers de Chinois implantés. Donc je n'ai pas de chiffres officiels, mais on peut estimer à environ 3 000 à 5 000 Chinois en Côte d'Ivoire.
Sur un total d'un peu plus de 28 millions d'habitants. Antoine Kernen, qu'en est-il au Cameroun? Est-ce que vous avez les mêmes difficultés aujourd'hui que Xavier Aurégan pour avoir des chiffres fiables?
Oui, on a des estimations. On peut estimer un peu leurs chiffres, mais c'est vraiment des estimations à la louche, avec un peu, on retombe un peu, mais c'est dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, un peu ce même genre d'estimation. Il y a peut-être le Nigeria où il y a un peu plus de gens. Mais sinon, effectivement, on est dans ce type de grandeur, quoi, hein, autour entre 3000, 5000 personnes. Mais là, on parle essentiellement des migrants qui partent par eux-mêmes, donc pas des travailleurs dans le cadre d'un contrat avec le gouvernement chinois.
Et nous, on va se concentrer sur ces travailleurs migrants, ce que Xavier Aurégan appelle migrants investisseurs. Vous parliez aussi, quand vous avez travaillé, Antoine Kernen, sur le Mali, sur le Sénégal, vous parliez de communautés qui comptaient entre 1000 et 2000 personnes, donc plutôt des toutes petites communautés. Donc on a peut-être une idée tronquée, parce que le peu de commerçants chinois, quand ils sont là, sont très visibles, notamment à Dakar, sur l'allée du Centenaire. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans Culture Monde. Est-ce qu'ils sont toujours ces communautés chinoises, Xavier Aurégan, quand elles sont présentes en Côte d'Ivoire, est-ce qu'elles sont toujours dans les grandes villes, ou est-ce qu'elles en sortent un petit peu?
Non, d'une manière générale, en Afrique de l'Ouest, comme ailleurs, en Afrique subsaharienne en particulier, la communauté chinoise est plutôt évidemment urbaine, puisque ce sont dans ces grandes métropoles qu'on fait du business, du commerce, qu'on peut investir, et que le marché est de taille, permettant finalement de faire de l'argent. Ils ne font pas autre chose. Donc, plutôt urbaine effectivement, à Abidjan, on peut estimer que 98% des Chinois y habitent, mais on retrouve effectivement une forme de dispersion, en tout cas de petites communautés chinoises dans des villes secondaires, entre guillemets secondaires. Il y a Yamoussoukro évidemment, Boaké, Korogo, Douala, etc.
Et vous, pour vous, Antoine Kernen, les quartiers chinois se ressemblent en général, que ce soit au Sénégal ou au Cameroun?
Oui, ça se ressemble. Il y a toujours une espèce de regroupement de commerce chinois dans les centres urbains, hein, souvent proches. Enfin, je sais pas, au Cameroun, il y a un marché central à Yaoundé. Autour de ce marché central, c'est la même chose à Douala. Vous avez une alignée de boutiques chinoises. Ça veut pas dire qu'ils logent là, hein, mais ils travaillent là. Oui, ça, il y a un point commun dans l'ensemble des pays. Je commence à en avoir vu un certain nombre de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, peut-être juste pour ajouter, hein, on a ces grosses communautés, enfin ces communautés visibles qui sont dans les centres urbains. Vous avez des entrepreneurs, mais des entrepreneurs privés aussi, hein, qui parfois sortent un tout petit peu de ces grands centres. On va les retrouver dans le domaine des mines, par exemple, un peu à l'extérieur des villes, ou alors des gens qui commencent à développer des industries, mais qui sont en banlieue urbaine. Alors, elles sont moins visibles que ceux qui sont les commerçants.
Alors que ce soit Antoine Kernen à Yamoussoukro au Cameroun ou à Bamako au Mali, vous dites que ces quartiers chinois se ressemblent souvent. À Bamako, vous décrivez près du marché central et de la grande mosquée toutes ces boutiques qui vendent des chaussures, des tissus, des fleurs en plastique, des mèches de cheveux. C'est dans ces secteurs-là qu'on retrouve beaucoup les commerçants chinois. Mais vous disiez souvent ils n'y vivent pas. Alors où vivent-ils?
Alors ils vivent dans des quartiers réputé stable, hein,
Vous voulez dire en termes de sécurité ou
en termes de sécurité, oui, un peu à l'extérieur de l'hypercentre, quoi. On les retrouve, à Yaoundé, Bobalitsa, on les retrouve très clairement dans les quartiers où les Blancs vont séjourner, c'est-à-dire le quartier Bastos. C'est réputé pour être plus sûr, etc. Donc,
il y a des ONG qui sont là.
Les ONG sont là, etc. Une partie des ambassades sont là. Donc, on va retrouver une partie de ces commerçants qui logent ici. Il n'y a pas de quartier résidentiel étiqueté, comme ça, vraiment, clairement, on peut en trouver ailleurs aussi, mais il y a souvent des petits regroupements de quelques familles autour d'un lieu pour la dimension résidentielle.
C'est le cas aussi, Xavier Horigan, à Abidjan. Les commerçants chinois, s'ils sont dans le China Market, qui compte 50-60 commerces, ils ne vivent pas là, ils vivent plutôt où ?
Oui, effectivement, à Abidjan, les commerçants chinois sont principalement installés, implantés à Djamé, une commune au nord du plateau, mais vivent effectivement en dehors d'Adjamé, commune très populaire, très passante pour le moins, et vivent plutôt à Cocody, et notamment dans un quartier qui s'appelle les Deux Plateaux, et encore plus précisément autour de la rue des Jardins, un quartier résidentiel où on retrouve beaucoup de restaurants étrangers, beaucoup d'activités étrangères.
Et des restaurants chinois aussi,
d'ailleurs. Des restaurants chinois, évidemment, mais également vietnamiens, et puis et d'autres nationalités, on va dire, d'autres origines. Et c'est un quartier qui est plébiscité par la communauté chinoise pour sa stabilité, pour sa proximité également avec le plateau, donc le centre-ville, on va dire, ivoirien, enfin en tout cas abidjanais, et pour sa proximité avec l'ensemble des autoroutes ou moyens de transport. Et parfois, on retrouve comme à Dakar, avec le quartier Gibraltar, une forme de proximité entre le commerce et le logement, par exemple, qui jouxte, le quartier Gibraltar, qui jouxte le boulevard du Centenaire.
C'est vrai qu'il y a, parmi ces migrants investisseurs chinois, il y en a qui ont ouvert non pas des commerces, mais des restaurants, restaurants aussi luxueux, comme à Bamako, par exemple, l'hôtel Komogel, qui a été pris, qui était à son époque prisé par le président malien avant qu'il ne soit renversé par la junte militaire, comme vous le racontez, Antoine Kernen, dans vos travaux. Alors, quand cette immigration chinoise en Afrique, hors des canaux, entre guillemets, officiels, puisqu'on ne parle pas là des ouvriers qui arrivent dans les valises d'un groupe chinois mandaté pour un grand chantier, par exemple, ni du personnel d'ambassade, mais cette immigration plus individuelle, quand est-ce qu'elle a commencé, Xavier Horigan ?
Alors, elle a principalement commencé dans les années 2000, en parallèle de l'augmentation des flux commerciaux entre la Chine et l'Afrique, tout simplement après l'entrée à l'OMC de la Chine populaire. Et en Côte d'Ivoire, précisément, on peut dater de 2007, donc l'année des accords politiques de Ouagadougou, qui a permis de mettre un terme, en tout cas d'une manière relative, au conflit interne en Côte d'Ivoire. Donc, effectivement, à partir de 2007, on voit des flux qui s'intensifient. On voit également la constitution de sociétés de droit ivoirien, mais à capitaux chinois. Et donc, c'est pour cela que j'appelle ça des migrants investisseurs, puisqu'évidemment, ils migrent et investissent dans le pays d'accueil. Donc, à partir de 2007, puis ensuite, une autre accélération à partir de 2011, à la fin du conflit post-électoral entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara.
Donc là, vous parlez d'une migration très récente. Est-ce que les Chinois qui arrivent dans ces années-là croisent quand même des Chinois installés depuis plus longtemps? Et je pense par exemple dans un des pays que vous avez étudié, Antoine Kernen, au Mali, ou ces pays où la Chine communiste à l'époque de Mao Tse-Tung envoyait des travailleurs dans la santé, dans les centres de santé ou pour travailler dans l'agriculture. Est-ce que certains étaient restés, ou même plutôt encore les coulisses qu'on évoque tout au long de cette série au 19e siècle, est-ce que des Chinois étaient restés sur le continent africain bien avant que ces nouvelles vagues de migration n'arrivent?
C'est une bonne question. Globalement, il faut dire non. Globalement, il n'y a pas vraiment de chevauchement. Dans certains lieux, vous allez pouvoir en trouver. En Afrique de l'Ouest, pas tellement. On va souvent ressortir l'exemple de Jean Ping, dont le père était d'origine chinoise. Mais on a un exemple comme ça, et très peu. Pour un énorme espace, donc il y a finalement très peu de Chinois qui étaient présents dans les années 2000 lorsqu'arrivent ces commerçants chinois. Alors bien sûr, on avait des équipes médicales qui étaient présentes avant, bien sûr on avait des coopérations qui existaient, mais là encore c'est des gens qui viennent en fonction de contrats et qui vont pas faire souche, ou ceux qui font souche sont vraiment des exceptions dans chaque pays, on va peut-être en trouver un en vous disant, ah bah tiens, lui, il s'est marié, etc., etc. Oui, mais globalement, on n'avait pas de communauté structurée en 2000 lorsqu'arrivent ces commerçants chinois. Donc, ça, c'est quelque chose qui est... c'est aussi pour ça qu'on en a, à cette période-là, beaucoup parlé, hein, parce qu'on avait... pas l'habitude d'avoir des Chinois dans ces pays. Hein, donc on voyait tout d'un coup arriver des tonnes de Chinois, des nombres impressionnants de Chinois, mais on en parlait tout le temps. Mais en fait, on parlait effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, de très peu de gens. Oui. De très peu de gens, mais qui étaient visibles à ce moment-là.
Est-ce qu'il faut
et
faire...
des gens qui ont fait beaucoup d'argent au début, en tout cas.
Au départ, voilà. Ça marchait bien, les affaires. On va en parler aussi, il y a quelques exemples de succès qui sont très régulièrement mis en avant. Est-ce qu'il faut faire un lien, Antoine Carnel, entre l'arrivée des commerçants chinois et celle des entreprises chinoises de construction? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que les employés de la construction ont choisi de ne pas rentrer en Chine à la fin de leur contrat et sont restés pour monter un commerce? Est-ce qu'il y a des liens de parenté? Enfin, parce que apparemment, ils viennent tous de la même région pour beaucoup dans les pays que vous avez étudiés.
Oui, alors je dirais que dans la plupart des pays, vous avez ces migrations qu'on retrouve un peu dans l'ensemble de la planète, hein, du Fujian et du Zhejiang, hein, des deux provinces qui ont une habitude de migration importante et aussi une industrie de produits manufacturés importante. Et puis, vous avez des cas un peu particuliers, hein, effectivement, qui contredisent ce nombre important de personnes du Fujian ou du Zhejiang, qui parfois sont en lien pas direct avec des investissements qui peuvent avoir eu lieu ou des entreprises d'État qui peuvent être présentes sur place. Donc ça peut arriver. C'était le cas au Sénégal, effectivement, où vous avez une communauté du Renan qui est plus importante qu'on pourrait s'y attendre. Et puis, vous avez effectivement une entreprise d'État de la construction qui est là. Mais c'est pas des gens qui ont travaillé dans ces entreprises. C'est plutôt des parentèles ou des gens comme ça qui vont avoir l'idée de partir en Afrique parce qu'ils connaissent quelqu'un qui est en train de travailler en Afrique et qui lui a dit qu'il y avait peut-être de l'argent à faire. Donc, c'est plutôt quelque chose d'assez indirect. Ce lien entre entreprise d'État ou entreprise de construction et migration commerçante, c'est pas les mêmes personnes.
Xavier Aurégan, est-ce que c'est la même chose pour vous en Côte d'Ivoire? Beaucoup de personnes qui viennent de la région du Hunan, donc qui est une région montagneuse, qui n'est pas une région côtière, elle est pas très
Hunan,
montagneuse.
Hunan,
pardon, je le dis très mal. Qui n'est pas une région côtière comme on a pu parler de ces régions d'origine des diasporas chinoises en Asie, l'Inde ou en Europe hier. Là, on est un peu plus au nord. C'est le cas aussi en Côte d'Ivoire?
Alors c'est vrai qu'en Afrique de l'Ouest, sur les terrains que j'ai pratiqués, notamment Mali et Sénégal, Côte d'Ivoire par exemple, on retrouve beaucoup, à peu près à 40% selon mes recherches, des habitants du Renan, en tout cas des gens d'origine du Renan, qui est une province enclavée, rurale, plutôt agricole à l'origine, et qui est surtout connue pour sa main-d'œuvre agricole tournante en Chine. Et à partir de l'installation, en tout cas de l'implantation de Renan Chine, l'entreprise de BTP de construction à Dakar, c'est vrai qu'on a vu une forme d'essaimage, ou en tout cas de diffusion spatiale de certains ex-ouvriers, ex-salariés de Renan Chine au Sénégal, puis après donc à Bamako et puis à Abidjan et ailleurs. Mais ensuite, je rejoins tout à fait Antoine sur les autres éléments. C'est marginal, hein, les personnes qui étaient là depuis très longtemps en Afrique de l'Ouest, d'origine chinoise, sont très marginales. On a eu effectivement quelques boursiers, on va dire maliens, sénégalais ou ivoiriens, qui sont revenus de Chine et parfois, par le biais du mariage, on ramène finalement leur concubine ou leur femme, tout simplement. Mais c'est relativement marginal dans tous les cas. Et on assiste d'une manière générale, pour le coup aussi, en Afrique de l'Ouest, à une diversification de l'origine des provinces. On a même parfois des Chinois qui viennent du Xinjiang ou d'autres provinces plus éloignées, on va dire, des côtes.
Et pour ceux qui ne viennent pas avec une entreprise et qui, à la fin de son contrat, s'installent dans ces pays africains, est-ce que d'autres qui viennent directement de la province, leur province d'origine, ont accès à des informations, je ne sais pas, peut-être des agences presque qu'ils contactent pour organiser leur arrivée sur le continent africain?
Oui, il y a plusieurs modes opératoires. Il y a évidemment le Guangxi, donc le réseau en Chine, qui permet effectivement de s'approprier un petit peu les conditions locales de vie, de travail, etc. Et puis, il y a les maisons d'émigration, les Zhongjie, qui permettent également, en les payant évidemment, les rémunérant, d'assurer une forme de sécurité pour le voyage, pour le transport, et de se projeté sur le terrain d'accueil, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, etc. Donc il y a plusieurs modes opératoires, mais le principal, comme Antoine le disait tout à l'heure, c'est plutôt le réseau familial, amical, qui permet d'appréhender un petit peu les conditions de travail. Et dans ce cadre-là, pour les petits commerces en particulier, on a une main-d'œuvre relativement tournante.
Est-ce qu'il y a toujours l'idée de rester, d'y aller durablement dans ces pays d'Afrique ?
En général, non. Si on schématise, non. Il reste quelques années, il retourne en Chine. Donc l'objectif, c'est quand même de faire de l'argent, prioritairement.
Oui, vous dites souvent ça, faire de l'argent, mais parce que l'Afrique, ces pays africains en particulier, sont considérés comme des Eldorado, ou c'est par défaut parce qu'ils n'ont pas pu aller ailleurs ? Enfin, comment font-ils le choix, si on peut parler de choix, de venir ici en particulier?
Non, c'est plutôt par réseau migratoire, encore une fois. Ce n'est pas un choix, on va dire, vraiment voulu. L'Eldorado, il serait plutôt, si on peut parler d'Eldorado, en Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord, ou quelques pays d'Asie éventuellement, mais en aucun cas l'Afrique. L'Afrique est rarement plébiscitée dans ce que j'ai pu entendre. Et dans ce cas-là, non, c'est plutôt pour effectivement avoir une expérience à l'étranger, faire de l'argent encore une fois, et revenir en Chine pour financer les études, pour financer la vieillesse des parents, un logement, etc. Donc de l'argent qu'ils n'auraient pas obtenu en Chine, a priori.
Alors c'est pour ça que beaucoup se lancent dans le commerce, le commerce de détail, mais pas seulement, ils vendent aussi en gros. D'ailleurs, à qui vendent-ils en gros ? Antoine Kernen, vous racontez à Dakar, sur l'allée du Centenaire, ces revendeurs sénégalais avec de gros ballots de chaussures pour la revente. En général, qui sont ceux qui achètent directement aux commerçants chinois pour ensuite revendre dans d'autres villes du pays ou même plus loin encore ?
Oui, alors il y a une pluralité de gens qui vont s'achalander chez ces Chinois. Ça commence à celui qui vous vend des mouchoirs en papier dans les fils, dans les bouchons de circulation dans les grandes villes, qui vont chercher ça chez les Chinois, qui les revendent au feu de circulation. Et puis des commerçants mieux installés qui peuvent être dans des quartiers ou un peu plus loin dans d'autres villes. Donc il y a vraiment tout un réseau de diffusion des produits chinois qui partent de ces commerces. Il faut aussi dire que les Africains ont aussi quitté l'Afrique pour aller eux-mêmes s'achalander en Chine ou à Dubaï ou etc. etc. Donc on a, on le voit apparaître maintenant, c'est un peu moins l'Eldorado qu'avant, donc il y a certains secteurs dans lesquels les Chinois sont plus présents. Ont abandonné, par exemple, dans certaines villes, tout ce qui tourne autour des téléphones portables sont tenus par des Africains qui font eux-mêmes ou le trajet avec la Chine, ou vont s'approvisionner d'une manière ou d'une autre de produits chinois par eux-mêmes. Donc, ouais, il faut bien voir ça. C'est qu'ils sont arrivés en 2000. En 2000, il y avait vraiment un marché qui s'ouvrait à eux, qui était très juteux. Ils pouvaient revendre des produits qu'ils achetaient peu chers en Chine. Donc, il y avait des grosses marges qui pouvaient se faire. Progressivement, vous avez davantage de Chinois qui viennent et qui vendent les mêmes trucs. Donc, les prix baissent. On le voit beaucoup. Et puis... aussi des Africains qui se mettent dans ce secteur. Oui. Et puis, donc vous avez une dynamique de diversification qui va s'opérer progressivement, et puis des retours aussi qui sont liés à ça. Oui. C'est-à-dire que c'est pas toujours, on fait pas toujours fortune en Afrique. On rêve de fortune, mais on ne fait pas toujours fortune.
Donc
c'est compliqué.
Certains y rentrent, et ceux qui y restent créent aussi des différends, des tensions avec les commerçants restés là, même si vous dites bien, Antoine Kernen, que beaucoup se sont eux-mêmes engouffrés dans la brèche en allant s'approvisionner eux aussi en Chine. Des commerçants locaux, par exemple les motos à Bamako, sont beaucoup de fabrication chinoise, qu'ils font venir en pièces détachées, qui sont moins taxées à l'import, et qu'ils remonte directement à Bamako. Et ça, là-dessus, les commerçants maliens ont toujours la main sur ce commerce-là, mais sur d'autres, ce n'est plus le cas. Et beaucoup dénoncent une concurrence déloyale. Au Cameroun, par exemple, les commerçants sont inquiets.
Tout le monde sait que je peux venir à China Mall. Ce que je prenais, par exemple, à 2500, je l'aurais là-bas à 900. Ça a cassé, vraiment cassé le marché.
Le Chinois fabrique avec une technologie, avec des outils, l'assistance même souvent, la subvention de l'État, et apporte sa marchandise à un prix très bas pour venir faire concurrence à un autre entrepreneur camerounais qui, lui, fabrique avec une technologie rudimentaire et qui n'a pas le soutien de l'État. Je pense que nos autorités ne se rendent même pas compte du mal que cette activité-là crée pour l'économie.
On aurait aimé que la Chine nous apporte de l'expérience, par exemple en matière de technologie, par exemple en matière de transfert de compétences, mais peut-être pas venir se discuter encore le marché avec les commerçants locaux.
Alors ces témoignages-là ont été recueillis au Cameroun par Voice of America, la branche africaine de ce média états-unien. Xavier Oregon, est-ce que vous entendez les mêmes choses en Côte d'Ivoire où vous travaillez beaucoup? Parce qu'on peut aussi être surpris en se disant mais la concurrence où est-elle? C'est pas comme en Europe où les produits entrent en concurrence directe avec ce qui est fabriqué sur le continent européen. Là en l'occurrence le tissu industriel est assez n'est pas très développé. Donc quelle concurrence créent-ils ces commerçants chinois?
Alors les commerçants chinois vont de fait créer des concurrences, à l'origine plutôt avec la communauté syro-libanaise ou d'origine syro-libanaise, qui a petit à petit finalement largement abandonné le commerce de détail, voire de semi-gros, pour se reconcentrer plutôt sur l'industrie, la petite industrie manufacturière en particulier. Et effectivement, donc la communauté chinoise peut créer des conflits, des rivalités, des tensions et forcément des concurrences. Je pense évidemment à la FENACI à Abidjan, donc la Fédération nationale des commerçants et industriels, qui a tenté à la fin des années 2000 de s'opposer à la communauté marchande chinoise, comme on l'a eu au Sénégal avec l'UNACOIS ou
l'Union des commerçants.
Voilà, exactement. Oui. Et puis au Cameroun, mais également en Zambie et dans d'autres pays. Oui. Donc on a des tentatives, mais on n'a pas de front commun en général, à part peut-être au Sénégal à la limite, mais on a rarement de front commun. Donc disons que la manifestation, en tout cas la prise de position officielle des syndicats, tombe à l'eau assez rapidement. Et généralement, les commerçants chinois s'en sortent très bien.
Antoine Carnel, si ces commerçants chinois créent parfois des tensions avec leurs collègues camerounais, ivoiriens, maliens et autres, ils ont aussi un rôle d'employeur dont on ne parle pas très souvent, mais ceux des intermédiaires qu'ils emploient, notamment parce que souvent ils ne maîtrisent pas très bien la langue pratiquée dans le pays où ils se sont installés et il leur faut quelqu'un pour se faire l'intermédiaire, pour parler des prix à tous ceux qui viennent leur acheter en gros par exemple. Qui sont-ils ces intermédiaires employés par les commerçants, les restaurateurs, les patrons chinois en Afrique?
Oui, c'est ça. Je pense que c'est important de bien comprendre. On a toujours ce discours autour de la concurrence, quoi. Il y a bien sûr de la concurrence dans certains secteurs. Comme vous l'avez dit, les produits chinois importés concurrencent d'autres produits chinois importés. Donc c'est entre importateurs qu'on se fait concurrence. C'est pas de la production locale, en tout cas pas au Cameroun. Donc ces intermédiaires vont servir de traducteurs, mais plus largement je pense que ce sont des gens qui permettent de comprendre le fonctionnement. C'est absolument indispensable, par exemple, pour eux d'avoir des personnes qui sont capables de gérer les douanes. Comment est-ce qu'on passe des produits, on passe son container en douane. Vous avez besoin de quelqu'un qui connaît la machine, qui connaît les deux filières, la filière légale rationnelle et puis l'autre filière, etc., pour pouvoir importer des produits à moindre prix. Ces personnes qui collaborent avec ou qui sont employées des commerçants chinois, pour une partie, vous avez ceux qui ont étudié en Chine et puis qui n'ont pas réussi à trouver un emploi digne de leur formation en Chine, ce qui est quand même assez souvent le cas, et qui vont utiliser leurs connaissances linguistiques pour travailler, en tout cas temporairement, chez un commerçant chinois. Puis il y a d'autres gens qui vont apprendre un petit peu sur le tas en allant suivre quelques cours à l'Institut Confucius, et puis on développe une espèce de langue commune, qui
permet de travailler ensemble.
Voilà, qui permet de travailler ensemble, même si c'est pas forcément très standard comme langue. Voilà, c'est leur langue.
Ouais. C'est le cas par exemple au Mali. Hein, vous racontez bien ces commerçants chinois qui recrutent parmi les jeunes maliens qui ont fait leurs études en Chine, parce que ça fait de nombreuses années que le gouvernement chinois octroie des bourses à des étudiants maliens au titre de la coopération entre les deux pays, et que c'est quoi, une cinquantaine d'étudiants par an et qui passent 4-5 ans en Chine, et quand ils reviennent au Mali, pour ceux qui reviennent, souvent ils servent d'intermédiaires à ces commerçants chinois. Quels patrons sont-ils en général, Xavier Aurégan, les patrons chinois qui emploient des, en l'occurrence, Ivoiriens? Quelle est leur réputation?
Alors c'est très différent d'une relation à l'autre, de secteur entre secteurs d'activité également. Disons que ce qui prévaut, c'est l'informalité dans tous les cas. L'informalité, autrement dit, il n'y a pas de contrat signé entre les deux parties. Bon, pour les salaires, on a des salaires relativement moyens, hein, entre 50 et 100 euros, d'une manière générale, selon mes entretiens. Et les relations sont ambivalentes. Parfois, elles sont relativement amicales, parfois très peu. Tout dépend un petit peu du caractère déjà du patron chinois, entre guillemets, et puis de la capacité linguistique, en quelque sorte aussi, de l'employé ivoirien ou ouest-africain, d'une manière générale. Mais c'est vrai qu'ils font office d'interface, de caution locale également, par rapport à la police, aux forces de l'ordre, et se sont rendus totalement indispensables. Mais je pense que ce n'est pas spécifique à la Chine en Afrique ou aux Chinois en Afrique, c'est d'une manière plus générale le cas partout dans le monde.
Avec là quand même la particularité qu'il n'y a souvent pas de contrat de travail, c'est ce que vous dites.
Oui, moi je n'ai jamais vu un contrat de travail.
Alors il y a par exemple ce chef d'entreprise chinois, Monsieur Ping, chargé de l'installation de la fibre optique au Cameroun, qui était interrogé en 2019 par la chaîne YouTube Investigation et Enquête.
Depuis le début, c'est 500. C'est le salaire qu'on a fixé avec tout le monde. Ce travail-là, il va durer un jour ou deux. Alors, maintenant, vous faites ce que vous voulez.
Bon, on va arrêter le chantier aujourd'hui.
C'est ça. Eh bien, prenez le camion et partez. Si j'accepte une fois leur demande, ils viendront réclamer tous les jours. Et alors là, je m'en sortirai pas. Et pour le même travail en Chine, j'aurai beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins.
On entend bien, Antoine Kernen, dans cet extrait, combien les employés camerounais de ce chef d'entreprise sont déçus du salaire, ou en tout cas disent qu'ils méritent davantage et s'en vont sans demander leur reste. Est-ce que c'est un cas particulier d'après vous au Cameroun, ou c'est quelque chose que vous entendez régulièrement, c'est-à-dire qu'il y a des relations assez tendues entre les patrons chinois et leurs employés ici au Cameroun, mais ça peut être ailleurs au Sénégal ou au Mali?
Ouais, donc non, c'est quelque chose d'assez fréquent. Hein. Donc, Xavier a dit qu'il n'y a jamais de contrat, hein. Même dans le cadre de projets d'entreprise publics, hein, qui sont présentes sur place, il y a très rarement des contrats, hein, très rarement des contrats de travail. Donc on joue sur cette précarité. Hein, là, le monsieur Ping qui dit « Ah, si je leur donne une fois, je pourrais leur donner tous les jours ». Ça, c'est un discours, évidemment. Ce qu'il sait aussi, monsieur Ping, c'est qu'il licencie là 50 personnes aujourd'hui, il va en retrouver 50 demain, pour faire un travail qui demande peu de compétences spécifiques.
Donc, oui, en position de force.
Il y a une position de force sur un marché où il y a un taux de chômage énorme. Donc, il joue là-dessus. Ça, c'est clair. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait des intermédiaires. Les intermédiaires, ils ont une compétence supplémentaire. Donc, parfois, ils sont aussi dans des relations qui sont plus amicales, plus cordiales avec leur patron, parce qu'ils sont indispensables. Hein. Alors que cette main-d'œuvre, là, en l'occurrence, pour creuser une tranchée, peu importe. Hein. Voilà, on fait tourner les effectifs. C'est ce qu'on voit très clairement aussi dans les petites usines chinoises qui se développent au Cameroun. On ne les garde pas. On ne veut pas les garder. On fait d'ailleurs ce qu'on a fait en Chine il y a encore quelques années.
Xavier Aurégan, est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on entend souvent de la part des Ivoiriens, puisque vous travaillez en particulier sur la Côte d'Ivoire, de se dire aussi que les Chinois restent souvent aussi beaucoup entre eux? Enfin, parce que j'essaye de formuler les choses, parce que je lis beaucoup de témoignages de personnes qui disaient que les Chinois étaient racistes quand ils arrivent. Alors bien sûr, ce sont des témoignages. On les a, je crois, vous tous les deux, Xavier Aurégan et Antoine Kernen, mis en perspective et remis dans un contexte historique et rappeler ce qui était en train de se passer, puis tout ça, et plein de nuances comme d'habitude. Mais est-ce que c'est... Voilà, des tensions existent aussi, non plus entre commerçants, mais réellement dans les sociétés d'accueil.
Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les communautés chinoises migrantes sont les dernières à avoir migré, en quelque sorte, en Afrique de l'Ouest. Et déjà, pour cette raison, elles sont vues avec un œil, disons... parfois négatif. L'autre point, évidemment, c'est que chaque communauté qui migre à l'étranger, qu'il soit expatrié ou pas d'ailleurs, va reproduire dans une certaine mesure des pratiques communautaristes. Et les Chinois ne font pas exception. On peut le voir à Bangkok ou ailleurs, ou à Abidjan ou à Dakar. Il y a effectivement des pratiques un petit peu communautaristes qui se développent, hein, tout simplement. Mais c'est quelque chose de logique aussi. La langue chinoise, la culture chinoise, l'entre-soi, fait que les repères, évidemment, oui. Tout cela fait qu'ils ont besoin finalement de se retrouver et de créer une forme de Chine expatriée, de Chine extraterritorial, ici à Abidjan ou à Dakar, mais ça peut être ailleurs.
Un entre-soi que déplorent d'ailleurs certains d'entre eux, les membres des communautés chinoises, par exemple Liu Chen, qui est interprète originaire du Hunan et expatriée à Dakar, où elle travaille comme interprète donc pour des entreprises chinoises. Elle était interrogée par RFI il y a quelques mois.
Je suis arrivée au Sénégal. Une semaine après, je cherchais un événement sur Internet et je trouvais un concert qui se trouve à l'université de Dakar. J'ai pris un taxi et je suis sortie voir le concert. Donc c'est le moment là, je me suis dit que bon, oui, c'est ça que je cherche. Donc c'est l'ambiance culturelle et surtout c'est la musique que j'aime. Je dois dire que les sociétés chinoises, j'aime pas trop l'ambiance. Comment dire, ils limitent la liberté de sortir parce qu'ils disent que non, c'est à l'étranger, surtout c'est en Afrique, c'est très dangereux. Mais moi, je pense que si on voyage à l'étranger, c'est plutôt pour découvrir, pas seulement pour travailler. Il n'y a que les sociétés chinoises, ils demandent de vivre en communauté, même dans le même immeuble.
Cette jeune femme, donc, qui avait une trentaine d'années à ce moment-là, raconte combien elle a envie aussi de s'intégrer, de se mêler à la société, en l'occurrence à Dakar, où elle est installée. Est-ce que les communautés chinoises, enfin les Chinois qui sont arrivés dans les années 2000, ont fini par faire des enfants qui se mêlent aux autres, ont fini par faire société? Est-ce qu'il y a des mariages? Si je vous pose la question, c'est parce que Antoine Carnel, il y a quelques années, vous aviez remarqué qu'il y avait très peu d'enfants chinois dans le quartier chinois de Dakar.
Oui. C'est toujours un petit peu le cas. Hein. J'entends, je pense pas qu'on n'a pas une insertion véritablement des Chinois dans la société locale avec métissage ou ce genre de choses. On va en avoir quelques-uns, hein, bien sûr. Mais c'est plutôt l'exception que la règle. Non, donc pour l'instant, effectivement, ces commerçants envoient plutôt qui ont réussi, hein, vont plutôt envoyer leurs enfants à l'école française et puis après partir à l'étranger pour faire des études. C'est plutôt ça l'objectif que de faire souche et de se marier localement. Mais il y en a, bien sûr qu'il y en a. Peut-être que juste une chose sur la question du racisme qui était abordée tout à l'heure, on pourrait cette accusation-là, elle est souvent mise en avant aussi dans le cadre des relations de travail, hein, où vous avez dans le cadre des petites industries privées qui se développent, un groupe de Chinois qui sont à la direction et qui vivent relativement bien, dans des bonnes conditions de travail, avec des bons salaires, etc. Et puis, le reste des employés locaux, camerounais ou autres, qui n'ont pas du tout les mêmes conditions de travail, qui des rythmes de travail extrêmement durs, etc. Des salaires qui sont considérés comme bas, etc., etc. Et la possibilité de se faire renvoyer du jour au lendemain. Dans ce contexte-là, moi, j'ai souvent entendu l'idée que les Chinois nous considèrent comme des sous-hommes, quoi. Donc c'est plutôt, si vous voulez, l'accusation de racisme prend corps dans une relation d'exploitation économique, quoi.
Alors, on va voir comment les choses se passent en Afrique du Sud, où la communauté chinoise est implantée depuis un petit peu plus longtemps. Ce sera notre focus juste après un morceau que Sam Bakiast a dégoté, vous a trouvé, figurez-vous, que c'est de la mandapop, donc de la pop en mandarin, sur un rythme afrobeat. Et ça, il fallait le trouver.
Jingle tree. sacrifice.
Taille de l'artiste chinoise de 30 ans Vinida Weng, c'est donc de la mandapop en mandarin sur un rythme afro. J'allais dire en mandarin, mais je crois que d'ailleurs cette chanson en particulier est écrite plutôt dans un dialecte de la ville de natale de Vinida Weng, le Fuzhou, la capitale du Fujian dans le sud-est de la Chine. En tout cas, de la mandapop sur un rythme afrobeat. Vous êtes bien dans Culture Monde, les communautés chinoises en Afrique, pour le troisième volet de cette série sur les diasporas chinoises. Nos invités Antoine Carnen et Xavier Aurégan nous ont parlé de ces migrants investisseurs installés en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, au Mali. Focus cette fois sur l'Afrique du Sud, un ancien Eldorado pour les migrants chinois, aujourd'hui moins attractif.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Après avoir connu différentes vagues d'immigration chinoise depuis la fin du 19e siècle et l'arrivée des coulisses, l'Afrique du Sud a accueilli une présence chinoise relativement importante à partir des années 2000, mais beaucoup sont depuis repartis. Nous sommes depuis Utrecht, aux Pays-Bas, avec vous Romain Dietgen, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous, vous êtes géographe, enseignant-chercheur à l'université d'Utrecht, donc aux Pays-Bas. Qui sont-ils ces premiers Chinois à fouler le sol sud-africain? À quel travail étaient destinées les coulisses au 19e siècle?
Bon, comme c'était évoqué dans la première partie, il y a un certain nombre de parallèles, mais aussi des spécificités par rapport à l'Afrique du Sud. Un volet, c'est notamment le nombre, mais aussi les différentes vagues migratoires qui ont eu lieu à différentes époques. Donc la première, vraiment cette vague importante, c'était celle des colis au 19e siècle, après l'abolition de l'esclavage. Donc il y avait une demande très importante de main-d'œuvre pour travailler dans les mines. Il y a la découverte de l'or à Johannesburg en 1886. Et donc, il y a une 60 000 coulis qui sont de force, en quelque sorte, mais qui sont venus pour travailler dans ces mines, dont la plupart a comme été renvoyés en Chine. Ce qui est intéressant, cette ruée vers l'or a aussi été accompagnée de migrants dits « libres », donc ils sont venus également par l'attrait de l'or, que ce soit en Afrique du Sud, en Californie ou en Australie, et qui voulaient également tenter leur chance dans ce dynamique de ruée vers l'or, mais qui n'avaient pas le droit de travailler dans les mines, mais qui du coup ont donc ouvert des commerces, des espaces de jeu, etc. Et c'est aussi ceux-là qui sont restés et dont les enfants, les petits-enfants sont vraiment devenus.
Oui, ce sont toujours là, pardon, Romain Dietgen, aujourd'hui. Comment le régime d'apartheid à partir de 1948 considère ces travailleurs chinois?
À partir de 1948, ce qui était vraiment difficile, c'était les Chinois qui étaient sur le sol sud-africain, ils se sont trouvés un peu coincés entre deux contextes différents. D'un côté, il y avait la mise en place du régime d'apartheid, donc des lois de discrimination raciale, où les Chinois ont également été impactés. Et de l'autre côté, en 1949, avec l'arrivée au pouvoir de Mao Zedong, et beaucoup de ces migrants chinois qui étaient sur place étaient plutôt proches du Kuomintang. Donc ils étaient un peu coincés entre les deux contextes.
On vous écoute. La liaison n'est pas très très bonne, je crois que vous... ça a l'air d'être compliqué quand j'ajoute une petite chose. Mais on vous écoute, qu'est-ce qui se passe alors? Parce que dans les années 70, l'Afrique du Sud fait appel beaucoup à des Taïwanais qu'ils considèrent, donc c'est toujours le régime d'apartheid, comme des blancs à titre honoraire. Qu'est-ce que ça veut dire?
Donc là, pendant les années 70, le régime d'apartheid était vraiment isolé sur la scène internationale. Donc ils essayent de multiplier les partenariats avec tous ceux qui le veulent. Et donc avec Taïwan, ils essayent d'attirer des industriels taïwanais ou leur donnent un statut de blanc honoraire, alors ce qui était très différent par rapport aux Chinois qui étaient là sur le sol sud-africain déjà avant. Et donc ces industriels taïwanais, ils étaient censés venir pour ouvrir des entreprises dans ce qu'ils étaient appelés à l'époque les Bantoustans, donc les réserves qui étaient mises en place pour essayer de faire refonctionner l'économie dans un contexte d'isolement international du fait du régime d'apartheid.
Et pardon, ça veut dire quoi ces blancs à titre honoraire? Pourquoi ce statut accordé aux Taïwanais?
Ce qui était assez étonnant, c'était vraiment, ils voulaient leur donner, ils voulaient créer une sorte d'attrait spécifique pour que des investisseurs viennent, donc qu'ils ne soient pas impactés, pénalisés par des limitations, lois discriminatoires racistes, où les Asiatiques, Indiens, Pakistanais, Chinois, et bien évidemment ici les Sud-Africains noirs étaient fortement impactés. Ça veut dire en termes de possibilités de vie, de travail, de lieu de résidence. Et donc c'était vraiment d'essayer de leur attribuer ce statut spécifique pour pouvoir, pour être attrayant. Pour un certain nombre de milliers de Taïwanais industriels à l'époque.
Donc j'imagine que c'était aussi à cause de leur anticommunisme à l'époque, les Taïwanais et leur nationalisme, qu'ils ont eu le droit, entre guillemets, à ce statut. Après la fin de l'apartheid, que change sous Nelson Mandela l'ouverture des relations diplomatiques entre l'Afrique du Sud et la Chine, donc en 1998, est-ce que ça provoque des arrivées chinoises dans le pays, Romain Dittgen?
Les premiers, donc de cette troisième vague, en quelque sorte, c'était déjà fin des années 80, début des années 90, des sortes d'aventuriers qui voyaient aussi qu'il y avait énormément d'opportunités d'affaires et d'argent à faire, parce qu'il y avait un manque de biens assez faramineux. C'était un pays qui était isolé, et c'est aussi le même moment où la Chine s'est petit à petit ouverte sur le monde, et donc ces personnes, assez limitées en nombre, ont pu faire venir des conteneurs avec des produits, des marchandises qui allaient donner des possibilités de commerce et donc qui sont devenus assez riches. Et petit à petit, avec ces possibilités qui commençaient à se développer, la mise en place de relations diplomatiques entre la RPC et l'Afrique du Sud a facilité une arrivée beaucoup, beaucoup plus importante à partir de 1998. Donc des gens qui sont venus aussi pour saisir des occasions, pour essayer de faire l'argent, tel que ça a été présenté aussi dans la première partie de l'émission.
Donc avec des points communs et avec votre regard de géographe aussi, je voulais vous demander, Romain Dittgen, comment vous avez vu aussi changer la ville de Johannesburg, dans quelle mesure cette présence chinoise a contribué à modifier cette ville, puisque dans vos travaux, vous parlez de quartier laissé presque à l'abandon dans la banlieue de Cyrilden, où un camion en provenance de Maputo vient tous les vendredis vendre des fruits de mer, où les habitants chinois du quartier viennent s'approvisionner. Qu'est devenu ce terrain? Comment la présence chinoise a contribué à modifier cette ville?
Bon, ce qui est particulier, c'est que ce qui est à la fois intéressant, c'est le nombre. Encore une fois, on parle de 350 000 jusqu'à 500 000, c'est vraiment un peu, comme le disait Antoine Kernan, un peu une estimation à la louche, mais sur une population de 63 millions d'habitants en Afrique du Sud, ça reste quand même assez peu. Ce qui est intéressant d'un point de vue géographe, c'est aussi un contexte d'inégalité où l'héritage de l'apartheid est très visiblement ancré dans l'espace. Et donc, ce que les Chinois, ils ont fait à partir des années 90, c'était développer des centres de distribution et de commerce de gros, ce qu'on appelle aussi les malls chinois, vers le sud de la ville, vraiment pour pour approvisionner le marché, pas seulement sud-africain, mais aussi dans la région. Donc il y a énormément d'autres groupes migratoires, tels que les Éthiopiens, mais aussi des Sud-Africains, des migrants allant jusqu'en RDC, qui sont venus aussi en Afrique du Sud pour venir s'approvisionner en biens, de marchandises à prix abordable. Et donc c'est vraiment les premiers Chinois qui ont saisi cette occasion aussi pour développer ces malls qui, par la suite, sont devenus en quelque sorte des rentiers, parce que ce qu'ils faisaient, c'était louer des espaces de commerce dans un contexte aussi de criminalité et de violence qui est quand même assez prononcé. C'est aussi pour développer un contexte sécurisé pour ce commerce. Donc,
oui.
C'est aussi un lieu au sud de la ville qui est assez ennuyeux. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses à faire. Et donc, à partir des années 90, il y a un quartier chinois qui a commencé à se développer à Siridin, qui est plutôt un quartier résidentiel, suburbain, où petit à petit, il y a une rue, deux rues qui ont commencé à changer et qui a devenir un quartier chinois, aussi pour créer, comme dans d'autres villes, aussi un espace plus familier où ces migrants entrepreneurs pouvaient aller manger, se sentir un peu plus à l'aise. Mais c'est surtout là, les gens qui y vivent, ce n'est pas forcément les investisseurs, ceux qui détiennent aussi ces centres de distribution, mais plutôt les employés. Donc, c'est des gens avec beaucoup moins de capitaux, beaucoup moins de réseaux, beaucoup moins de compétences linguistiques, et donc qui se retrouvent aussi un peu plus coincés et qui aimeraient bien habiter dans un milieu un peu plus familier.
Et on arrive à la fin de cet entretien. Un petit mot, Romain Dittgen, parce qu'on a eu l'occasion récemment dans notre série sur l'Afrique australe, dans Culture Monde, de parler des grandes difficultés économiques et sociales auxquelles sont confrontés aujourd'hui les Sud-Africains. Inflation, taux de chômage très élevé, les questions de sécurité que vous évoquiez aussi. J'imagine que les communautés chinoises ne sont pas épargnées. Est-ce que beaucoup se posent la question de partir aujourd'hui? Beaucoup sont déjà partis même?
Il y a beaucoup de questions qui se posent. D'un côté, la situation économique. Politiquement, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis aussi la présidence de Jacob Zuma, mais aussi un échelon plus localisé. À Johannesburg, il y a eu 9 maires sur un laps de temps de 10 ans. Donc, ça ne crée pas forcément beaucoup de stabilité de gouvernance. Mais surtout que les marges de profit en chuté, il y a de plus en plus de compétition, de rivalité entre des Chinois, mais aussi avec des franchises sud-africaines qui ont commencé à importer de plus en plus de biens aussi bon marché de Chine directement. Donc ça crée un endroit, un contexte qui est moins favorable. Et en plus, si c'est un contexte qui est assez violent, où parfois des migrants chinois sont ciblés comme des victimes, parce que c'est un commerce qui se déroule autour d'argent liquide. Donc il y a de plus en plus de personnes qui se posent des questions. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer dans ce contexte?
Merci beaucoup Romain Dittgen, géographe, enseignant-chercheur à l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas. Merci d'avoir été avec nous. Pour conclure, Xavier Aurégan, je ne vous ai pas demandé aux uns et aux autres comment Pékin considérait cette diaspora chinoise en particulier, celle qui est sur le continent africain. Est-ce qu'il y a une forme de dialogue qui est maintenue tout le temps, jusqu'à parler peut-être d'influence?
Alors, il y a de plus en plus une porosité entre la frontière publique et privée des présences chinoises en Afrique en général. Et le problème qui se pose, c'est qu'une partie des migrants, de la communauté migrante chinoise, pratique des activités illégales, ou alors pratique des activités légales, mais illégalement. Et donc, ça peut rejaillir sur l'image de la Chine, ce qui, évidemment, ne plaît pas beaucoup au gouvernement chinois et au Parti communiste chinois. Et on peut citer comme exemple, évidemment, le décès de 9 Chinois en 2023, en Centrafrique, dans la mine d'or de Tchimbolo. Et donc là, pour une fois, Xi Jinping a pris la parole pour dénoncer publiquement l'atteinte physique à ces migrants chinois, et donc pour tenter de sécuriser un petit peu ces communautés migrantes chinoises en Afrique, y compris par la base de Djibouti.
Merci beaucoup Xavier Aurégan d'avoir été avec nous dans Culture Monde. Merci beaucoup Antoine Kernen également, qui était depuis Lausanne avec nous grâce aux moyens techniques de la RTS. Je remercie Yanis Bordas de vous avoir accueilli. C'est l'heure de la revue de presse internationale. Et c'est vous, Laura Dulieu, qui nous présentez cette revue de presse ce matin. En Serbie, les manifestations étudiantes viennent de faire plier le gouvernement.
Et time smo ispunili i one najpolitičkije zahteve dela najekstremnijih.
Ce que vous entendez là, c'est le Premier ministre serbe Milos Vucevic qui annonce sa démission, ainsi que celle du maire de Novi Sad, deuxième ville du pays, Milan Djuric. Deux démissions qui, dit-il, répondent même aux revendications des manifestants les plus extrêmes, en référence aux manifestations qui durent depuis 3 mois dans le pays. Le Guardian en rappelle le point de départ, l'effondrement du toit de la gare centrale de la ville de Novi Sad, dans le nord de la Serbie, le 1er novembre. 15 personnes sont mortes. Depuis, les manifestations sont quasi quotidiennes, menées par des étudiants de plusieurs universités avec différents modes d'action. Blocage de la circulation pendant 15 minutes à 11h52, heure exacte de l'effondrement, ou encore interruption des cours dans tout le pays en occupant les facs. Lundi, rappelle le journal britannique, les étudiants ont été rejoints par les agriculteurs pour bloquer un carrefour stratégique de Belgrade pendant 24 heures. Vendredi dernier, c'était un appel à la grève générale. Tout cela pour des revendications simples, écrit le Guardian. Une transparence totale sur les causes de l'effondrement du toit. 13 personnes ont déjà été inculpées, dont l'ancien ministre serbe des Transports, qui a démissionné quelques jours après. Le gouvernement a aussi déclassifié un certain nombre de documents sur l'affaire, mais rien de tout cela n'aura suffi.
Il faut dire qu'il ne s'agit pas que d'un banal et malheureux accident.
La verrière en béton, en acier et en verre s'est effondrée quelques mois seulement après la fin de sa rénovation en juillet 2024, rappelle le Guardian. Sauf que voilà, explique l'agence Associated Press, la rénovation de cette gare s'est faite dans le cadre d'un partenariat sino-serbe. Un exemple parmi de nombreux autres où la Serbie entreprend de grands projets d'infrastructure en partenariat avec des entreprises chinoises. Les manifestants affirment que la corruption, le manque de surveillance et des négligences dans les travaux ont abouti à la tragédie du 1er novembre. Les étudiants ont donc renversé le gouvernement de Milos Vucevic. C'est en tout cas ce que titre le journal d'opposition Vrem, qui explique que face à la résistance de la société à son mode de gouvernement autocratique et à la corruption endémique, Aleksandar Vucic a été contraint de sacrifier son premier ministre et leader au sein du parti progressiste serbe. Pour autant, écrit le Guardian, cette démission est perçue comme une tentative du puissant président de se maintenir au pouvoir. Aleksandar Vucic est un nationaliste pro-russe qui domine la politique serbe depuis une décennie. Le journal britannique cite Marta Spala, qui travaille au Centre d'études orientales de Varsovie, selon qui le président espère capitaliser sur le fait qu'il n'existe pas de structure politique forte et unie pour contester son régime. Deux options possibles désormais, écrit le Guardian, nommer un nouveau Premier ministre ou convoquer des élections anticipées. La décision doit être prise d'ici un mois, mais pas sûr que cela apaise les étudiants qui n'ont pas prévu de cesser leur mobilisation. Ils vont au-delà de l'opposition habituelle, analyse une spécialiste des Balkans, toujours dans le Guardian. Il contourne les règles standards face à une gouvernance inefficace. Ils ne recherchent ni le dialogue ni le compromis. Ils exigent que les institutions fassent simplement leur travail. C'est le premier signe sérieux de la faiblesse du régime, s'enthousiasme enfin le journal serbe Vrem, et la première victoire de la société civile en Serbie sur l'autocratie en vigueur depuis 13 ans.
En mer Baltique, Laura, un câble sous-marin a encore été endommagé.
C'était tôt dimanche matin dans les eaux territoriales suédoises, relate l'agence Reuters. Un câble sous-marin à fibre optique entre la Lettonie et la Suède a été abîmé, probablement à cause d'une influence extérieure, selon Riga, qui a dépêché un navire de guerre dans la zone. De quoi déclencher une enquête pour sabotage ouverte par les autorités suédoises. La Suède qui a, dans la foulée, appréhendé un navire bulgare. Le PDG de la compagnie opératrice nie toute implication et affirme qu'à cause de très mauvaises conditions météo, l'une des ancres a chuté au fond de la mer où elle a pu traîner des kilomètres et ainsi abîmer le câble. Sauf que les Européens sont à cran sur ce sujet. Ce n'est pas le premier câble endommagé et la région de la mer Baltique est en état d'alerte maximale, résume ABC News. Alors que les craintes grandissent vis-à-vis de la Russie et de sa guerre hybride consistant à cibler les câbles sous-marins pour déstabiliser les pays soutiens de l'Ukraine. Le dernier sabotage en date, celui du 25 décembre, avait endommagé un câble électrique et 4 câbles de communication. Les autorités finlandaises soupçonnent l'implication du navire russe Eagle S, de la fameuse flotte fantôme, ces navires russes qui naviguent dans l'ombre en marge des sanctions européennes. Les Européens craignent que ces navires ne sabotent intentionnellement les lignes d'énergie et de communication, même si, croit savoir le Washington Post, les services de renseignement américains et européens estiment de plus en plus que les dégâts sont causés par des accidents maritimes. Alors sabotage ou accident, toujours est-il que ça n'apaise pas les inquiétudes européennes autour de la sécurité en mer Baltique. L'OTAN renforce d'ailleurs sa flotte dans la zone avec notamment une nouvelle mission de l'Alliance baptisée Baltic Sentry pour protéger les infrastructures sous-marines.
Merci beaucoup Laura Dulieu.